Dieu fait partie des heureuses personnes qu'elle a pu contacter pour, dans le cadre de la réflexion autour de ce projet et pour créer une œuvre vidéo autour de cette expo future. Donc, mon but étant de me rendre indispensable à absolument tous les musées de France. On commence à faire ça. Au départ, le musée d'Orsay m'a appelé à cause de la série Merci de ne pas toucher, qui est en fait une adaptation audiovisuelle de ce qui était une performance conférencée, un peu assez punk en fait, mais qui a eu un succès institutionnel, puisque Arte, ça a donné une espèce d'assise qui a rassuré tout le monde. Et notamment, il y a deux épisodes qui étaient sur des œuvres du musée d'Orsay. Donc il y avait un épisode sur l'Olympia de Manet et un épisode sur l'origine du monde de Courbet, et notamment l'épisode sur l'Olympia de Manet où en plus on faisait un petit tableau vivant au début qui, voilà, c'est le déjeuner sur les routes. Voilà, il y en a qui l'ont eu. Exactement, donc toute cette série, c'est de la vulgarisation et en même temps quelque chose d'assez pop avec une relecture, et notamment une relecture volontiers queer, féministe et décolonial, comme on écrit ça parfois dans des petites notes d'intention. Et j'ai été assez surprise qu'il m'appelle, en tout cas qu'elle m'appelle, puisqu'en fait c'est une femme employée du musée d'Orsay qui m'a appelée pour me proposer une carte blanche, justement en résonance à ces fameux deux épisodes qu'ils avaient beaucoup aimés. Et j'ai été appelée, moi, par un service assez particulier dans un musée, qui est le service de programmation artistique. Donc pas par le service de conservation, certainement pas, pas par le service non plus de médiation, mais par le service de programmation, qui normalement programme des artistes qui n'ont absolument aucun lien avec l'histoire de l'art, et ça fait même partie un peu de la rencontre, de proposer une relecture. Là, c'était un projet un petit peu particulier, puisque moi, j'ai cette double casquette de faire aussi de la vulgarisation et donc une certaine forme de médiation. Ce que Sandra Bernard, donc, qui est cette personne qui travaille au musée d'Orsay, m'a proposé, c'est une carte blanche. Donc, elle m'a dit, nous, on aimerait travailler avec vous parce qu'on estime que c'est important, cette relecture. Et j'ai été vraiment étonnée de cette conscience intérieure. Et c'est pour ça que j'ai précisé que c'était une personne qui se reconnaît comme femme, puisque quand même, je pense que la dimension critique et notamment féministe faisait aussi partie de l'intérêt porté à ça, au-delà de la vulgarisation de l'histoire de l'art. Et moi, je me suis posé pas mal de questions, parce que tout le concept de « Merci de ne pas toucher », c'est justement d'amener des œuvres d'art dans des lieux où elles ne sont pas, et donc surtout pas au musée. Et donc c'est parler d'une œuvre d'art à l'intérieur d'un lieu du quotidien le plus what the fuck possible, le plus éloigné, et puis au final de faire se relier le réel, le contemporain, avec le patrimoine et l'artistique. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est dans un musée, quel serait ce pas de côté à faire dans un musée? Et évidemment, les premières choses qui me sont venues à l'esprit, c'est plutôt les questions du vandalisme. Et en plus de ça, il y a une actualité très nouvelle, le vandalisme dans les musées, c'est-à-dire l'œuvre d'art comme lieu de contestation, en tout cas de lutte. Je vous ai mis les suffragettes britanniques qui lacèrent un tableau à la National Gallery au début du XXe siècle, et puis plus récemment, alors la version œuvre d'art avec les glaneuses, dont une qui se pose pour faire sa pose clope, là, qui était plus une revisite contemporaine, mais donc les giclées de soupe sur la Joconde, évidemment, et puis le musée d'Orsay, très directement, qui est un des endroits phares où on fait des trucs étranges. Alors il y a cette performance iconique de Deborah de Robertis devant l'origine du monde, et puis il y avait plus récemment donc cette action d'une jeune personne dans le cadre de ces nouveaux vandalismes entre guillemets, avec des revendications climatiques qui sont faites par des personnes très jeunes et très engagées. Et donc je vous ai mis cette espèce de petite punchline, c'était donc voilà, cette destruction de l'art par des délinquants ne peut en rien être justifiée, elle doit cesser, a déclaré la ministre de la Culture, Rachida Dati, sur le réseau social X. La ministre annonçait qu'elle porterait le sujet auprès du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour la mise en œuvre d'une politique pénale adaptée à cette nouvelle forme de délinquance. Et l'article précise que sur le poster que la jeune personne avait collé par-dessus les coquelicots de Manet, c'était un paysage cauchemardesque. Et le petit paragraphe présente lui aussi un paysage cauchemardesque. Entre X, Dupond-Moretti et Rachida Dati, il n'y a rien qui va, en vrai, dans la question culturelle française. Donc voilà, moi, ce que m'évoquait la notion de musée, c'était plutôt ça, quelque chose d'assez épidermique, d'assez violent, en fait, dans ces termes. Et à la fois, j'ai trouvé ça super qu'on m'appelle en se disant « Bon, allez, elle va pas nous... Elle aime bien l'histoire de l'art quand même, elle va pas nous cracher sur les tableaux. » Ce qui est vrai, par ailleurs. Mais que par ailleurs aussi, en fait, le fait que quelqu'un monte sa chatte devant un tableau ou jette de la soupe sur une vitre ou machin, ça n'abîme pas plus les œuvres que ça, en réalité. Mais ça fait partie du mythe. Et donc, je me suis dit, OK, comment on fait pour à la fois s'inscrire dans cette mouvance délinquante tout en restant sur cette ligne de crête qui est la mienne et qui permet de faire passerelle quand même et de reconnaître aussi tout l'aspect positif du fait que le musée ait un intérêt pour ça. Et donc la carte était complètement blanche, donc on m'a dit tu fais ce que tu veux. Alors tout de suite moi j'ai dit bah moi je me vois pas présenter un truc comme je fais d'habitude, c'est-à-dire un PowerPoint avec des reproductions de tableaux dans l'auditorium alors qu'il y a les œuvres en vrai juste au-dessus. Moi mon PowerPoint il marche quand on est dans un lycée du fin fond de la Creuse, mais en vrai je trouvais ça bizarre, donc je veux faire un truc devant les œuvres d'art. Là on m'a répondu bah oui comme tous les artistes, mais je te préviens c'est chiant et c'est galère pour nous, ça va être galère pour toi, c'est galère. J'ai dit ouais mais c'est pas grave, moi c'est ça que je veux. En vrai j'ai aussi compris que c'était vraiment galère et que donc j'ai fait un petit peu au départ pour leur faire plaisir et pour couper la poire en deux, j'ai fait un projet tout de suite double qui se présentait comme tel, avec une partie visite pour petits groupes dans les collections et une partie spectacle pour l'auditorium. Et en fait, l'idée, c'était aussi que les visites me permettent d'écrire et de concevoir ce qui serait la version spectacle et qui serait une forme de visite virtuelle. Mais il fallait bien que cette visite ait eu lieu dans le réel. Et le concept qui m'est apparu autour de cette notion de musée, c'est le mot « escape game ». J'en avais absolument jamais fait, mais j'ai trouvé ce mot quand même assez dingue, qui est un nouveau mot, qui fait partie des nouveaux concepts. Même si en réalité le concept en soi n'est pas très novateur, ça reste une chasse au trésor. Et l'idée surtout de prendre en compte le lieu. Qu'est-ce que c'est de faire quelque chose dans un lieu qui enferme, dans un lieu, et comment on essaye de s'échapper. Et l'idée n'était pas tant de sortir du musée en tant que tel, puisque moi j'aime bien le principe du musée, mais c'était de sortir des héritages douteux, ou tout simplement, là comme je le dis, des héritages du 19e siècle, puisque pareil, le musée d'Orsay, moi je me suis dit, c'est super, mais d'une, j'aime pas les impressionnistes, et puis quand on rentre au musée d'Orsay, on a les femmes à poil à gauche et les orientalistes à droite, ça va être très compliqué. Et donc l'idée a été de partir de ça, de dire comment on échappe aux héritages capitalistes, misogynes et racistes du 19e siècle. Et donc avec l'idée d'un escape game symbolique, un escape game culturel, mais ça, ce qui est en fait un petit peu ce que je fais tout le temps, que ce soit avec la question de la Révolution française ou de Louis XIV, c'est un petit peu de prendre toutes les lignes de fuite qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un sujet qu'on croit connaître, ou en tout cas qu'on a intégré malgré nous, et le 19e siècle est tellement partie prenante de notre conception actuelle de la société, de la politique, etc., et des droits sociaux, etc., que c'est très difficile de faire ce tri entre ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Et donc, il y avait ce fameux 19e qui voit la régression des droits des femmes, qui s'ouvre avec le Code civil, qui est la grande période coloniale, et qui est ce qu'on appelle la révolution industrielle, et comme dit Michel Rieux-Sarté, qui est la seule révolution qui a vraiment réussi, et qui est en fait la révolution capitaliste, on va dire. Donc c'était ça le projet. Donc au début c'était pas très drôle, hein, je me suis dit comment on arrive à rendre ça sympa et surtout à y trouver une espèce de porte d'entrée. Moi, j'utilise toujours des portes d'entrée autobiographiques à l'intérieur de ça. J'ai commencé par l'endroit le plus petit. Il se trouve que mon père vient de Cherbourg, en Normandie, et que j'ai récupéré de ma grand-mère cette petite tasse avec imprimé l'Angélus de Millet. Et il se trouve aussi que quand la série Merci de ne pas toucher est sortie, Ouest France et la presse de la Manche m'a élu personnalité de la Manche. Et donc ça m'a pas mal fait rire. Et je me suis dit, allez, eh ben, commençons par là. Donc, toute mon aventure, aussi pour sortir de cette espèce de centralisation et du poids du musée d'Orsay qui est énorme, moi j'ai dit, bah, en vrai, le musée d'Orsay, moi quand j'y vais, je commence toujours par Jean-François Millet, parce qu'il vient de Cherbourg, comme mon papa et comme ma grand-mère. Voilà, et je me suis dit, bah, voilà une entrée. Et c'était une entrée aussi qui nous est arrivée par la révolution de 1848 et toutes les promesses émancipatrices que pouvait porter le 19e siècle et qu'il n'a pas forcément tenu. Et donc j'ai commencé en fait ce travail par une performance à Cherbourg qui était avec la galerie Le Point du Jour, qui est un centre d'éditeurs d'art et d'expo photo, et aussi par une immersion au musée Thomas-Henry, qui est donc un de ces petits musées municipaux, il est municipal en plus, qui fait partie de ces petits musées de province, et je me suis demandé aussi qu'est-ce que ça faisait. Et avec ces trucs, le musée Thomas-Henry dit, on a plus de Millet qu'au musée d'Orsay. Et donc c'est un petit peu de réinterroger la périphérie, la question du centre et de la périphérie, parce que c'était tout ça aussi que ça posait. Donc j'ai commencé par ça, une immersion avec des lycéens dans un musée, aussi pour me dire, ok, quand on est un jeune gens et que je leur demande de faire un peu des bêtises dans un musée, eh ben, on commençait un peu à tester ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire. On réalisait des petits films. Et donc, on a fait de la trottinette, on a fait un film de zombies pour la peinture espagnole, etc. Et c'était très chouette. Et aussi de commencer justement à tâter tous les pieds qu'on peut mettre dans la porte quand on est dans un musée, à faire jouer aussi les services entre eux. Donc on est entre la conservation qui passe une fois par hasard pour dire bonjour ou de faire moins de bruit, avec les politiques de la ville, avec les surveillants de salle à qui on a donné des ordres, qui parfois sont les plus énervés, mais qui en fait sont les moins bien traités dans le musée. Okay, voilà. Le service médiation qui est toujours super et qui est toujours avec nous et qui fait des heures sup. Et voilà, donc le projet a commencé comme ça. Et puis après, forte de cette première expérience, j'ai commencé à faire quatre escape games dans les collections du musée d'Orsay, c'est-à-dire que c'était les jeudis soirs de nocturne, et on enchaînait deux sessions, et j'avais décidé d'utiliser le dispositif de médiation, en fait d'utiliser les outils du musée, et en l'occurrence les petites oreillettes pour les visites guidées. Donc moi j'avais un micro, puisque pour que ça ne soit pas trop coûteux, il s'agissait de faire ça sur les horaires d'ouverture, donc avec énormément de gens tout autour. Donc vous êtes dans un littéralement hall de gare, il y a un bruit monstrueux et c'est très compliqué de se faire entendre. Donc même avec un petit groupe de 30 personnes, 35 personnes, il fallait trouver un moyen, et j'aimais bien l'aspect désuet que pouvait représenter aussi cette petite technologie qui faisait très Men in Black, ce qui faisait partie, moi, de mon inspiration. Et ça, c'était un truc que j'explorais depuis longtemps, qui est en fait sur la question du gardien de musée ou même du vigile en règle générale. Avec cette idée du costard, il suffit de mettre des lunettes de soleil sur un mec en costard, ça devient un man in black. Il enlève ses lunettes de soleil, c'est juste un vigile ou un gardien de salle, mais on cultive l'ambiguïté avec cette idée aussi de la question du pouvoir, hein. Et puis ce fameux costard qui est, on l'a vu avec Marine, qui est crucial dans la constitution sociale du 19e siècle et qui est lui-même un de nos héritages du 19e siècle. Et je trouvais ça amusant de pouvoir retravailler ça. Et donc, ces escape games dans les collections, en fait, on était... Donc, je faisais comme si j'étais un, mais en fait, on était deux, parce que j'avais un complice caché dans le public, ce qui permettait de mettre un petit peu de piment. Donc, il y avait toute une série de jeux, et on terminait par, comme dans tout escape game, avec une photo de groupe. Et puis, tout était articulé autour des glaneuses qu'on voyait au début, et puis qu'on retrouvait à la fin. Et j'avais demandé à une amie, Chloé Desmoineaux, de me créer un tableau piégé. Donc c'était un faux tableau des glaneuses que j'avais réussi à avoir le droit d'accrocher au musée d'Orsay. Et je vous ne dis pas combien de mails il faut envoyer pour ça, ni pour faire exploser un ballon. Et j'ai mis cette photo là-haut parce que du coup il y avait quand même pas mal de touristes qui se sont pris en photo à côté de mon tableau piégé, et qui était en fait un tableau imprimé sur toile. Donc ça a été cette première forme et qui nous a permis, donc avec l'agence Liman, qui est en fait comédien, donc qui était mon complice là-dedans, de composer ce qui a ensuite donné la deuxième forme, c'est-à-dire la version la version spectacle dans l'auditorium. Ce qui a été un vrai soulagement en fait, parce qu'on n'en pouvait plus. Enchaîner les trucs dans les collections, c'était quand même un enfer. Qu'on nous avait dit que le musée fermait à 22h, et en fait non, évacuation des salles c'est 21h30, et en fait on peut pas négocier avec il y avait toujours quelqu'un qui avait dit oui, puis qui en fait a dit non, et puis qu'en fait machin, et puis même la dernière où on a fait l'escape game avec le tout nouveau directeur du musée d'Orsay, quand on a demandé à un agent de sécurité si on pouvait laisser encore un tout petit peu les escalators fonctionner, il a dit non. Et il a appuyé sur le bouton pour que les escalators n'ont pas fonctionné. Et donc, c'est vrai qu'il y avait tout un tas de trucs qui est presque anti-création, presque anti-vie, mais aussi parce que c'est un principe de la conservation aussi. Mais on sent que ma blague à l'époque, c'était de dire, on est quand même mieux accueilli dans n'importe quel MJC de France, que quand on arrive au musée d'Orsay, même nous, pour répéter, on ne savait même pas où poser notre sac. Donc on a fini par utiliser les trucs les casiers, quoi, en mettant un petit code. Mais c'est vrai que tout est fait pour répondre à d'autres attentes que le spectacle vivant, voire même pour l'exclure. Et donc on a bien compris que quand on était dans l'auditorium, on avait beaucoup plus de marge de manœuvre. Et donc là, c'était super, avec une équipe technique extraordinaire. Alors parfois, il y a la femme du président chinois qui vient visiter, et donc là, on ne peut pas sortir de l'auditorium pendant 2 heures. Donc ça, c'est des choses auxquelles on n'était pas prêt. Mais donc voilà, on a créé cette forme qui est donc pour... 5 personnes, donc on est 2 comédiens, il y a une danseuse et une musicienne et une créatrice lumière, qu'on a joué 4 dates dans l'auditorium du musée d'Orsay, et puis ensuite qui est partie en tournée. Et c'est là où c'est une dimension intéressante de ces partenariats, et moi c'était un peu dans mon idée dès le départ, c'était de dire l'idée c'est pas simplement de faire ça dans l'auditorium, c'est aussi de faire un musée virtuel qui pourrait ensuite aller ailleurs. Donc là, je vous ai mis, par exemple, donc maintenant, dès qu'on le tourne ailleurs, la première slide d'entrée, c'est Escape Game au musée d'Orsay de Saint-Ouen, au musée d'Orsay de Gennevilliers, au musée d'Orsay de... Voilà, en fait, on peut délocaliser ça. Et j'aimerais bien aller faire ça au musée d'Orsay de Cherbourg. Mais c'est un petit peu cette idée... de l'escape game aussi, hein. Quand vous entrez dans un escape game, c'est une salle au milieu de rien dans le rez-de-chaussée d'un immeuble, et puis tout d'un coup on est sur une période room complètement intense, et on vous recrée un monde complètement fictif et vous acceptez cette fiction. Et ensuite, comme le musée d'Orsay a quand même une force de frappe médiatique assez intense, ça a donné des idées à tout un tas d'autres musées. Et j'ai reçu notamment une demande du musée d'art et d'histoire de Genève pour un escape game sur mesure que j'ai fait en partenariat avec un festival qui s'appelait Les Créatives, qui est un festival féministe à Genève. Et donc là, l'idée, ça a été de tout réécrire, une nouvelle forme, alors en prenant quelques petites choses que j'avais quand même déjà pu expérimenter à Orsay, mais en réalité, l'intérêt d'un escape game, c'est de faire un escape game, je dis ça, c'est aussi une visite, hein, mais c'est de faire quelque chose sur mesure, à la fois sur mesure dans les lieux et avec la topographie du lieu, et aussi mental, c'est-à-dire qu'autant l'héritage raciste, misogyne et capitaliste y marchait pour le musée d'Orsay et le 19e siècle, autant là, à Genève, il fallait repenser tout autre chose. Et bon, bah, là, en l'occurrence, un des trucs phares du musée de Genève, c'est la question du paysage. Et après, de voir justement comment la question du paysage est aussi une question politique, et comment tirer cette question politique du paysage, même si évidemment on repasse aussi par certains points obligés qui sont le féminisme ou le racisme ou des choses comme ça. Et puis il y a toute une question aussi qui était sur l'identité suisse. Et alors là, donc, c'est pour ça que je me suis confrontée à cette question de l'identité suisse, et j'ai travaillé avec une... Là, ma complice, c'était une performeuse suisse, et qui était là en... que vous voyez là en train de lécher son assiette, et qui était par ailleurs peintre aussi, et donc qui recréait un peu comme une Louise Breslau des temps modernes, et qui faisait toute une peinture au Cénovis, je ne sais pas si vous voyez. En Suisse, ils ont beaucoup d'aliments en tube, et donc là, elle peignait un truc en tube. Elle reproduisait une scène de harem de Valoton, un gros cul de Valoton à lécher, voilà. Et tout ça se faisait sous la forme d'un bingo. Donc voilà, ça a été un des trucs. Il y a d'autres musées qui m'ont appelé, mais en fait c'est un travail qui est énorme, et c'est assez compliqué de refaire un truc à chaque fois sur mesure, ou alors il faudrait faire un principe de passation, que ça rentre quelque part dans un dispositif de médiation. Et alors aujourd'hui, ensuite il y a eu trois autres ramification de ce projet-là. C'est pour ça que je vous présente ça un peu dans cet ordre-là, parce que c'est assez tentaculaire, en fait, ce qui est... Et ben, d'abord, j'ai travaillé avec le service médiation du musée d'Orsay, qui sont toujours très sympas, et avec qui on a créé un petit atelier sur les expos temporaires, puisque moi, mon envie, c'était vraiment de travailler au départ sur les expos permanentes, et c'était ça, ma carte blanche, et parce que moi, je préfère les collections permanentes. Et là, c'était un truc à destination des adolescents. Justement, le service médiation n'avait pas de proposition à destination des ados et jeunes adultes. Et moi, c'est un public que je connais bien et que j'aime beaucoup, ce qui est lycée et puis début de post-bac. Et donc, on a créé un truc qui s'appelait POV, qui est donc une espèce de trend des réseaux sociaux, et qui était en fait... Un petit atelier où les participants étaient amenés à faire créer des petites vidéos dans les collections, dans les expos temporaires. Et c'est là où c'était assez drôle, c'est vraiment fait pour les adolescents, puisqu'en fait, tous les jeunes gens, ils ont un super smartphone, ils ont CapCut, des logiciels de montage, ils font une super vidéo avec 14 effets en 12 minutes. Et dès qu'il y a des gens un peu moins jeunes, l'atelier marche moins. Parce que tout est compliqué, quoi. J'ai appris énormément de choses, moi-même. Ils m'ont impressionné. Mais donc, c'était très chouette de penser aussi cet atelier qui était plus participatif et qui reposait aussi sur un truc de comment s'emparer soi-même du musée et aller y faire sa propre narration, et avec quelque chose qui peut être chouette. Et là, ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est une adaptation lycée de l'escape game. Donc, escape game au musée d'Orsay, au lycée. Et là, qui va être repris par un comédien, donc qui ne sera pas moi, et qui sera vraiment une version jeu. Jeu pour faire jouer une ou deux classes à l'intérieur d'une salle de classe, et avec un dispositif vidéo dans lequel moi j'apparaîtrai en vidéo pour prendre en charge toutes les parties historiques. Donc je serai en hologramme, ce qui est un rêve. Et donc là vous voyez, on a tourné ça hier, hein, donc on est en train de faire le montage, mais en vrai c'est trop cool. Là le truc Man in Black il prend forme, quoi. Donc je suis un peu le chef des opérations. Et l'idée, c'était, avec l'Espace 1789 à Saint-Ouen, qui a financé ce projet-là, c'était de créer ça avec une classe de lycéens. histoire de pas faire de l'humour de boumeuse, de pas supposer des rêves qu'ils n'ont pas, ou et globalement, quitte à faire quelque chose adressé directement aux lycéens, autant que ce soit fait aussi avec leur participation. Et donc toute la semaine dernière, avec le comédien qui va créer cette forme-là, on était en immersion dans une classe de seconde. Donc tous les matins, on était avec 36 élèves et ils proposaient des jeux, des trucs, et puis on testait tout un tas de choses. On testait aussi tout un tas de rêves, genre, et alors si je vous dis Titanic, ça vous dit quelque chose? Ok, d'accord. Si je vous dis, ou ce mot-là, vous le comprenez? Ouais, non, enfin, voilà. Et je pense que ça, c'est hyper important de faire les choses pour les gens, quoi. Noémie vous en parlera juste après, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à essayer toujours de créer pour un public large, et en acceptant que tout le monde n'ait pas toutes les rêves, et c'est pas grave, et on s'en fiche, et ça n'empêche pas d'avancer, mais par contre, j'ai mon implicite, et qui se voit dans les études sociologiques de mes spectacles, c'est-à-dire que globalement, mon public est en moyenne une... Pardon. Vous verrez. Et puis, dernière ramification de ce projet, c'est une version bouquin de l'Escape Game, puisqu'évidemment, moi, un des grands trucs des collaborations avec les musées, c'est de savoir, est-ce qu'on est là juste, nous, en spectacle vivant, on coûte pas très cher, enfin si, parfois oui, mais moi pas tant, et on dit des choses à l'oral qui sont dites comme ça une fois et qui s'autodétruisent à peine la phrase prononcée. Et alors oui, moi, par rapport à un prof qui a le poids de l'éducation nationale sur ses épaules, par rapport à quelqu'un d'employé dans une institution, moi, je peux dire racisme systémique, violence d'État, je peux dire... tout ce que je veux, en fait. Mais c'est noté nulle part. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que je suis juste là pour faire de la com, pour amener les jeunes, parce que les jeunes sont concernés par les questions socialement vives? Ou est-ce qu'il y a une volonté plus profonde d'amener la réflexion et qu'il en reste des traces? Et la question de faire quelque chose qui reste au-delà de la représentation et du caractère événementiel, eh bien, c'était important. Et ce bouquin qui m'a été proposé par le Musée d'Orsay, le Musée d'Orsay a un service édition à l'intérieur, mais qui collabore avec des services, avec des maisons d'édition. En fonction de chaque projet, ils collaborent avec Azan, je ne sais pas quoi. Et là, ils m'ont proposé de collaborer avec Le Seuil. Donc, c'était assez royal, en plus. Et donc ça, bon, là, c'est juste une petite épreuve vite fait, hein, parce que j'aurais dû envoyer le texte hier et je ne l'ai pas encore fait. Donc, mais ça va être incessamment sous peu. Voilà pour tout ce projet. Merci.